Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. En cette fin de semaine, nous revoici donc dans nos lectures en liberté pour terminer cette lecture du récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs. J'étais à n'en pas douter un jeune homme obstiné. Je me suis mis à économiser dans le destin d'acquérir une voiture au comptant. J'espérais en outre, et accessoirement séduire, grâce à elle, une demoiselle de Sarrebruck, dont je venais de faire la connaissance. Elle s'appelait Mia. Et un jour, je me suis trouvé possesseur d'une 6 chevaux Renault, du type Toutant. Expliquons-nous, c'était un modèle hors série très perfectionné, d'une conception audacieuse. Grâce à un ingénieux système de glace mobile et de boulons, vous aviez une voiture découverte à la bonne saison et une conduite intérieure pour les grands froids. En somme, 2 voitures dans une. 3 personnes, en se serrant, y tenaient en trèfle. Encore un de ces raffinements dont on ne saurait se faire idée aujourd'hui. Je me suis vite complu à ces formes originales, changeantes et déjà un peu hors de mode. Haut sur roue, comme montée en graines, elle tenait encore de la Victoria et du coupé. Sa couleur Reseda n'était pas du tout banale. Quant au moteur à 2 cylindres, il n'était pas trop usé. On me l'a livré à ma porte. J'ai tenu à en faire l'essai sur le champ et j'ai invité mon père à cette petite fête. Elle a démarré brusquement un peu contre mon gré. J'avais dû heurter une manette. Le vendeur m'avait prévenu, elle était nerveuse. Nous roulions de plus en plus vite car la rue Serpollet est en pente. Je me suis rendu compte que j'avais oublié tout ce qu'on m'avait enseigné à l'école des chauffeurs. Certes, j'avais mon permis en poche, mais il me manquait sûrement de la pratique. Arrivé au bas de la descente, je ne me rappelais toujours pas ce qu'il convenait de faire pour arrêter ce véhicule. Mon père avait l'air anormalement nerveux. Par bonheur, je savais très bien tourner. C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises sur la place, tout autour du monument sculpté à la mémoire de Serpollet, l'inventeur. J'ai dû attendre l'instant où elle s'est immobilisée d'elle-même, tout près de l'entrée d'un garage. Il est possible que les spectateurs de cette ronde involontaire l'aient prise pour une manière d'hommage tardif rendue par l'apprenti au pionnier. Après ces débuts, j'ai causé une suite d'accidents plus ou moins notables, mais fort heureusement, c'était ainsi que me l'avait affirmé le vendeur, de la petite voiture solide. J'ai réussi à la casser quand même assez rapidement. Le dimanche qui a suivi l'achat, j'ai emmené toute la famille en banlieue. Nous avons poussé une pointe jusqu'à Antony. Entre-temps, je m'étais offert une casquette de coupe anglaise, ce qui, dans ma pensée, devait contribuer à accentuer ma tournure sportive. Ma mère m'admirait. J'étais en progrès. Sur le chemin du retour, la pluie s'est mise à tomber. C'est en de telles circonstances que l'on apprécie les avantages d'une Toutant. En traversant la place de Rennes, j'ai renversé une vieille bretonne à coiffe. Elle s'est relevée puis a disparu en courant. Je voudrais préciser qu'en ce temps-là, les freins sur roue avant n'existaient pas encore. Et j'en viens à me demander comment il se fait que je n'ai pas écrasé beaucoup plus de personnes. Depuis le jour où j'ai bousculé la bretonne, ma mère s'est refusée à monter dans ma voiture. Mon père, lui, a tenu bon. C'est tout comme moi un fervent de la route. et nous avons poursuivi à deux nos tournées banlieusardes qui se terminaient rarement sans quelques anicroches. Un après-midi, à Bourg-la-Reine, j'ai emporté tout un étalage de fruits et de légumes. Il ne m'en a coûté, je m'en souviens, que 5 francs pour le dommage causé au boutiquier. On vivait à bon marché. Ah, ça a été charmant. C'est en allant à Valmondois, en compagnie de 2 dames russes, que j'ai mal pris mon virage, et que l'auto s'est retournée fond sur fond, comme on dit en Suisse. Les dames ont été blessées. Moi, je me suis retrouvé en bon état. En y repensant, je trouve cela bien excitant. Nous transportions des gâteaux à la crème. J'ai pu revendre ma tout-temps au prix de la ferraille. J'en ai obtenu 800 francs, frais d'enlèvement non déduits. Pourquoi ce détail m'est-il resté en mémoire ? J'ai continué. Avec le temps, je suis devenu un chauffeur consommé. J'ai fait de grandes randonnées dans les 2 hémisphères. J'ai tué un cheval. J'ai failli écraser un petit mulâtre, soldat dans l'armée uruguayenne, qui ne s'en est d'ailleurs pas aperçu. Il est peut-être caporal aujourd'hui. Mais je n'en finirai pas de rapporter mes états de service d'automobiliste. Ils sont loin, les emportements qui avaient pris naissance rue des Acacias. Je ne l'aime plus, l'automobile. Je suis heureux de m'en être tiré sans qu'il y eût mort de personne, à part le cheval américain. L'autobus me suffit. C'est moins dangereux. Qu'est-ce que j'aime ? J'ai le cœur en veilleuse. Je suis à sec. Je suis un désert sans eau où je meurs de soif. Je vis seul, je mourrai seul, sans secours, on n'en saura rien. Un cadavre se décomposera lentement là, dans un coin de cette chambre, le téléphone sonnera lugubrement, personne ne répondra, pas même un chien, pour hurler à la mort. Après ma chute dans la fosse, j'ai été conduit à Berck-Plage, où je suis resté 3 ans en traitement dans le sel et le vent, dans les larmes. J'ai mal supporté la séparation. Il semble qu'il m'a pleuré dessus durant ces 3 années. Je me suis érodé à Berck. Petits enfants, prenez garde aux flots bleus. C'est une romance de D'Albret qu'il avait chantée à l'Eldorado quand j'y allais encore. Il m'est revenu que pour acquitter les frais de pension, mes parents ont été contraints de perpétrer des actes délictueux, quelques escroqueries, sur une échelle d'ailleurs des plus modestes. De là, je leur ai envoyé des cartes postales que j'ai retrouvées. Elles sont toutes affranchies à 10 centimes. Coucher de soleil, les adieux, pêcheuse de crevettes dans la baie de Loti, le carrefour de l'entonnoir en couleur, panorama pris en cerf-volant Gomez et compagnie à 150 mètres de haut, joyeux et bas sur la plage. Joyeux pour qui ? Elles sont expédiées rue des Acacias, d'abord à monsieur et madame. Ce n'est pas moi qui rédigeais l'adresse. Puis à madame seulement. Dans la partie réservée à la correspondance, j'écrivais toujours à peu près la même chose. J'accusais réception de mes illustrés ou du chandail que ma mère avait tricoté. J'affirmais que je m'amusais bien. Ce n'était pas vrai. Et comme pour en apporter la preuve, je rajoutais un S. Je m'amusais bien. De même que je mettais 2 S à baiser. Mais cela se comprend mieux. Je les doublais ainsi, je les étirais, afin qu'ils parussent plus longs, qu'ils n'en finissent pas. Sous ma plume, 1000 baissés en faisaient 2000 au minimum. Se peut-il que je n'ai jamais rien dit d'une petite infirmité dont j'ai souffert jusqu'à l'âge de 8 ans ? Il n'est pas trop tard. J'avais au bord de l'oreille une minuscule excroissance de chair que j'appelais ma sonnette. Lorsque quelqu'un voulait bien appuyer dessus, je contrefaisais la sonnerie avec la langue. On en riait beaucoup, moi aussi. Mais en moi-même, je devais être un peu triste, si je m'en rapporte à une lettre datant du jour de l'opération. La voici. Berck-Plage, le 10 juillet 1912. Chère maman, ce matin, M. Ménard m'a fait l'opération à mon oreille. Il a eu beaucoup de travail. Après, il était avec une doctoresse. Je n'ai pas pleuré. On ne m'a pas endormi. Je ne l'ai pas beaucoup senti car on m'avait insensibilisé. Je ne sais pas le dire, mais je sais l'écrire, ce mot. C'est la doctoresse qui l'a gardé, le machin, pour étudier dessus. Il y avait une belle racine. Tu parles, c'était jaune comme un nègre chinois parce que la doctoresse l'avait retourné, c'est pour ça. C'était comme une seconde oreille, il y avait du sang et du croquant dedans. Cet hiver, je travaillerai bien en classe, puisque je suis guéri. Comment vas-tu? Merci de tes deux cartes. Il fait jour. C'est un temps orageux cet après-midi, je reste à la maison, c'est le docteur qui l'a dit. Je fais le tapissier avec Madame Génaud en mangeant un abricot. Et j'avais signé d'une façon peu simple. La directrice de la pension confirmait en note, avec quelques fautes d'orthographe à elle, que l'opération s'était bien passée. J'ai aussi habité rue Serpollet avec ma mère. La maison existe encore au fond d'une cour. Elle résiste. Le bas de la mesure a été consolidé. On en a fait un garage, un de plus. On ignore peut-être qu'il est dans ce quartier de l'Étoile glorieux et cossu des taudis, où des hommes et des femmes et leurs marmailles tâchent à vivre sans air et sans confort, sans eau et avec des cabinets sans porte sur le palier. Mes parents demeurent toujours là-dedans. C'est par cette large porte que tous les matins je partais pour l'école de la rue Saint-Ferdinand. Le trajet est court et sans danger. Il n'y a pas de chaussée à traverser. Je suis sûr que ma mère me faisait pourtant sans recommandation de sagesse. Elle ne pouvait m'accompagner car elle confectionnait à la pièce des jabots en ce temps-là. De bien jolis jabots de mousseline légère que nous allions livrer en fin de semaine chez Mademoiselle Bessière, rue des Acacias. Mademoiselle Bessière était paralysée des jambes. Elle circulait d'une chambre à l'autre de son logement dans un fauteuil roulant dont j'aurais bien voulu me servir.
Tous les samedis soirs, on allait comme ça dans un bal musée pour danser comme ça. Dans un vieux quartier fréquenté comme ça par des danseurs de Java comme ça. Rue de la Peup, autant joyeux où les frappes étaient chez eux. Rue de la Peup, en ce temps-là, à petits pas on dansait la Java. Les Jules portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés, avec de belles rouflaquettes qui descendaient jusqu'au nez. Rue de la Peup, c'était charmant. Rue de la Peup, mais plus prudent. Rue de la Peup, pour les enfants, de les emmener ce soir-là au ciné, plutôt que d'aller se faire assassiner. Passez la monnaie, et ça tournait. Et plus ça tournait, et plus ça tournait, plus ça coûtait. Qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait? Quelques tickets. Mais on ne les payait presque jamais. Ceux qui ne sortaient pas de polytechnique, pour la politesse, avaient leur technique. Avec les gonzesses, c'était à coup de truc qui discutait politique comme ça. Rue de la Peup, on rencontrait une frappe qui revenait. Rue de la Peup, pour respirer un peu d'air frais de son bon vieux quartier. Il laissait à la Guyane son bel ensemble rayé pour cueillir le cœur de ses dames comme une poire au poirier. Rue de la Peup, c'était parfait. Rue de la Peup, ouais mais oui mais. rue de Lap, rue de Lap, par les poulets. Un soir de rafle, il se faisait cueillir. Pour la Guyane, il devait repartir. Passer la monnaie, passer la monnaie, et ça tournait. Pendant que ça tournait, pendant que ça tournait, on l'emmenait. Et ça lui coûtait quelques années. Mais il les faisait presque jamais. Rue de Lap, rue de Lap, quand il revenait. Rue de Lap, il recommençait.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Henri Calais, Les Grandes Largeurs. Dernier extrait. Du côté de la porte Maillot, j'ai eu une autre déception. On avait démoli l'Ona Park. C'est bien regrettable. Pourquoi s'acharne-t-on ainsi sur nos souvenirs à coups de pioche, à coups de canon, alors que nous n'en avons presque plus ? Tout a disparu. Les deux grandes tours blanches de l'entrée, du haut desquelles des hommes en redingotes rouges sonnaient du cor de chasse, sous un croissant de lune fait de 100 petites ampoules électriques et accrochées dans le ciel au moyen de je ne sais quel artifice. Et le Watershoot, et le Scenic Railway, rien. Il ne reste plus rien qu'un vaste terrain vague entouré d'une palissade. J'ai eu la curiosité de regarder par un interstice. J'ai pu apercevoir quelques marronniers, quelques peupliers défeuillés, des gravats en tas, des poutrelles déjà rouillées, et seul, au centre de ce lieu désolé, se tenait un énorme nègre tout nu en position de combat. Cela m'a réjoui de le rencontrer. Car je l'avais remis tout de suite, c'était Jack Johnson, un champion du monde incontesté. On ne jurait que par lui dans mon enfance. Il y a eu aussi Bombardier Wells et Joey Janet. De nos jours, les boxeurs n'ont plus d'aussi jolis noms. Georges Carpentier n'est apparu que plus tard, si je ne m'abuse. En quelle matière était Jack Johnson ? En métal ? En carton-pâte ? Je ne saurais le dire. Qu'importe. Mais pourquoi l'avait-on abandonné là ? Nous avons tous connu ces mannequins qui servaient à mesurer notre puissance musculaire. Ils ont eu beaucoup de vogue autour des années 1908, 1909 et 1910. On donnait des coups de poing dans le ventre rembourrés du nègre, l'aiguille d'un cadran se mettait en mouvement et nous renseignait sur nos capacités physiques. Et l'on partait joyeux et plus sûr de soi qu'auparavant. On ne craignait personne au monde. N'avions-nous pas 209 952 hommes sous les drapeaux ? Le moral des Français était également excellent. « Qu'ils y viennent !» se redisait-on avec des sourires un peu bravaches. Ils sont venus. Pour ma part, je n'ai jamais tapé dans le nombril du nègre, non point que je n'en eusse pas eu souvent l'envie, mais je me savais d'une force très moyenne. L'aiguille n'eût presque pas bougé. La conjoncture était agréable et réconfortante. On sortait de son isolement, on se sentait épaulé par le lion britannique d'une part et par l'ours moscovite d'autre part. On regardait au loin, on traversait une crise d'anglophilie dont les effets retentissaient jusque sur notre langage. On apprenait des mots anglais et même des phrases entières. « All right, yes, no, how do you do, pas mal et vous ?» On délaissait la lutte à main plate pour la boxe, le noble art. On dansait le cakewalk. « Mademoiselle, connaissez-vous le cakewalk ? On se met le bidon en tire-bouchon. » On dansait aussi la matchiche. En somme, on rigolait ferme. En mon fort intérieur, j'ai toujours porté un intérêt constant à la boxe. Il faudra que j'assiste un jour à un match, mais par malheur, il n'y a plus de tenant du titre. Est-ce ainsi qu'il faut dire de la valeur de Jack Johnson ? Le moment est venu de parler des appareils à sous. Il y en avait dans tous les bars. On voyait l'imposant Jack Johnson, les bras croisés, et qui faisait jaillir ses biceps dans une attitude que j'ai bien des fois tenté d'imiter devant les glaces. Sur le fronton de la boîte, on lisait « Jack Johnson ». Il ne suffit pas d'écrire que l'époque était riante. Elle était aussi spirituelle. Jack Johnson. Et effectivement, quand la bille d'acier entrait dans la case du milieu, vous n'aviez plus qu'à tourner une manette qui déclenchait une sonnerie et une cascade de jetons, fort douce à l'oreille. Il n'y avait qu'une seule case étiquetée « gagnée ». Mais il y avait plusieurs trous marqués « perdus » ou « réservés ». Ce doit être alors que j'ai pris goût au jeu de hasard. Mon père me soulevait de terre pour que je puisse introduire dans une fente de la couleur de mon choix les pièces de 2 sous qu'il avait toujours dans une poche de son gilet. Il pensait que je lui portais veine. Et d'ailleurs, ses amis disaient toujours « c'est la main de l'innocence », ce qui était vrai. Mais on ne gagnait jamais que des jetons sur lesquels était mentionné « à consommer en boisson ». Les tenanciers ne les acceptaient pas en paiement de croissants ou de sandwichs. Non, il fallait boire. Et sur place. C'est pourquoi l'on m'avait éconduit lorsque je m'étais présenté avec mon petit pot. Plus tard, j'ai fait fréquemment cette mauvaise expérience d'être obligé de boire quand j'avais surtout faim. En définitive, on a eu raison d'interdire les appareils à sous. Durant quelque temps, mon père s'était plus ou moins associé avec un copain qui fabriquait à domicile des disques de cuivre qui avaient le même poids et le même format à 1 millimètre près que les pièces de 2 sous. C'était un très bon artisan. Avec ses disques, il vidait la réserve des appareils. John sonnait continuellement. C'était du pillage. Il y avait pourtant des précautions à prendre. Il fallait former un groupe devant l'appareil, faire nombre et profiter de l'inattention pour glisser le disque d'une certaine façon. C'était tout de même assez compliqué, mais en réalité pas très dangereux. Les risques étaient infiniment moindres qu'avec la fausse monnaie à proprement parler. Cependant, il convenait de ne jamais retourner 2 fois dans le même bistrot, ce qui nécessitait presque une sorte de fichier tenu sans cesse à jour. Au fond, l'objectif de leur entreprise demeure pour moi assez confus. Je n'arrive pas à comprendre ce qui poussait mon père et son copain à se donner tant de travail pour un profit d'autant plus dérisoire que mon père n'a jamais été buveur. « Il est tout sauf ça », disait ma mère. Fantaisie de jeunesse. Peut-être. À moins que ce ne fût une façon de revanche sur les patrons de café contre qui mon père éprouvait une certaine aversion qui s'étendait d'ailleurs aux patrons en général. C'est une explication possible. Je reviens à Luna Park où je me suis quelquefois bien égayé dans mon adolescence. Que fera-t-on de cette place ? Un stade ? Il y avait des miroirs déformants, dans quoi nous nous trouvions laid. Le watershoot que je n'ai jamais pris, le scénic railway qui me rendait un peu malade mais dont il était fort divertissant de suivre les évolutions. Après tout, ce n'était autre chose que des montagnes françaises perfectionnées. Ce qui me plaisait par-dessus tout, c'était d'entendre le long cri des femmes pendant la descente à pic. Où vont-elles maintenant pour faire cela ? Il y avait également une maison hantée. Quand on en sortait, on était pris dans un tourbillon violent qui soulevait les robes des dames. Là aussi, il était plus amusant de regarder attentivement. La vie me paraissait alors pleine de gentillesse, désopilante, en un mot. Et cette baraque devant laquelle j'ai stationné bien souvent, où l'on voyait 2 créatures en chemise rose mollement allongées sur un lit dans des poses voisines de l'abandon, du moins nous le pensions. C'était assez ensorcelant, mais il y avait plus et mieux. Le lit était à bascule ou sur pivot, je ne puis préciser. Et si l'on touchait la mouche, un petit cercle rouge au moyen d'une balle en chiffon, un mécanisme faisait se renverser le lit et culbuter la dame la tête en avant sur un matelas qui amortissait la chute. Nous étions quelques jeunes gens à nous énerver un peu en retrait avec un sourire ambigu pendant que des messieurs s'obstinaient à viser la cible. Mais cela semblait très difficile à réussir. La baraque était très achalandée. Il faut croire que nous étions nombreux à n'avoir jamais vu de près ou de loin une femme en chemise rose tomber de son lit. J'aurais dû tenter ma chance. Là encore, j'ai manqué d'audace. J'ai dû espérer des années avant qu'une dame consentît à exécuter pour moi seul des tours qui m'ont rappelé un peu ceux de Luna Park. Mais en moins brillant, sans projecteur, et aussi sans le même entrain de ma part. À peu de distance de là, se trouve la chapelle de Notre-Dame de la Compassion. On l'a bâtie en commémoration de la mort du duc d'Orléans, Ferdinand Philippe Louis Charles Henri, qui a eu lieu tout à côté, route de la révolte. Le duc s'est brisé la colonne vertébrale en sautant de sa voiture dont les chevaux s'étaient emballés, en 1842. Le mausolée, en forme de croix latine, n'est pas beau. Il se délabre lentement, comme le reste. Mais il est parmi de grands arbres, et la grille est ouverte. Et un oiseau sifflait joliment. L'air était exceptionnellement doux. Je me croyais loin de Paris, du présent, de Luna Park, marchant le long d'une plate-bande. J'ai découvert deux fraises des bois cachées sous des feuilles. Je les ai cueillies, en tâchant de n'être pas surpris par la vieille chaisière. Elles étaient bonnes. Il n'y en avait que deux. Et je me suis éloigné en pensant au duc d'Orléans, sur qui je sais fort peu de choses. J'ai reconnu encore un petit café où mon père et moi allions le dimanche matin pour voir des combats de rats contre des phoques terriers enfermés dans des cages. Nous les excitions par des cris. Les chiens dévoraient rageusement le rat. Au début du siècle, on avait un faible pour tout ce qui touchait au sport. L'endroit s'appelait le ratodrome. Le percolateur de fer blanc doit être d'époque, mais les combats sont prohibés. Nous sommes devenus plus humains. Deux Arabes m'ont accosté. « Dis donc, m'a dit l'un d'eux, le métro, c'est loin ?» J'ai été d'autant plus ému par ce tutoiement inattendu que je me sentais porté vers la mélancolie, tout de même que le jour allait doucement vers le crépuscule du soir. C'est en repassant de la sorte sa vie à l'encre, après l'avoir jeté hâtivement au brouillon, que l'on s'aperçoit des fautes que l'on a faites. Trop tard. Il n'est pas question de recommencer, puisqu'il est dit qu'on ne vit qu'une fois. Le métro ? Non, il n'était pas loin. Moi aussi, j'allais y descendre. Le ballon de la défense de Bartholdi s'est envolé. Où ? À cet égard, nous avons été privilégiés au 14e arrondissement. On nous a laissé notre lion. Du même Bartholdi. Des souvenirs personnels en poudre, en grains, des fragments d'histoire de France, des fraises de bois. Voilà ce qu'on récolte en flânant à l'aventure dans Paris. En outre, si l'on fait attention vraiment, on perçoit à chaque pas la pulsation d'un grand cœur sous sa semelle. Voilà, nous avons donc terminé ce récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs. Henri Calais, cet auteur un peu oublié, celui qui a dit « Ne me secouez pas trop, je suis plein de larmes ». Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.